France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
6h19, bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour.
Arthur Chevalier, spécialiste de Napoléon et par ailleurs l'un des commissaires d'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette à Paris. Exposition dont Passage France Inter est partenaire et qui ouvre au public aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse avec vous, Arthur Chevalier, la visite ensemble. On est à la radio, donc donnez-nous à voir ce que c'est que cette exposition sur Napoléon, Arthur Chevalier.
Cette exposition, c'est une exposition qui raconte Napoléon dans l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il est le personnage principal et l'histoire de France est le décor. Donc on le suit de son arrivée à l'école de Brienne, quand il a 10 ans, où il commence sa très jeune carrière de militaire, à son départ d'exil pour Sainte-Hélène. Et entre cette introduction et cette conclusion, nous traversons eh bien évidemment le façonnement de la République, la création de l'Empire, sa vie intime très particulière, puisque c'est un empereur qui a changé de femme, évidemment des guerres qui ont été considérables et qui ont révolutionné la façon dont on faisait la guerre, bien entendu des campagnes mémorables, celles d'Égypte, celles d'Italie. Mais Napoléon, c'est aussi une chute, un déclin tragique qui commence avec la guerre d'Espagne, se poursuit avec la guerre de Russie. Donc on a essayé d'aborder toutes les facettes du personnage.
Alors justement, vous le dites, cette exposition rassemble un certain nombre de documents, d'objets, de tableaux, de sculptures qui viennent de partout, c'est complet là.
Oui absolument, puisqu'on a eu la chance d'avoir des musées partenaires exceptionnels, le Louvre, Versailles, Malmaison, Fontainebleau, les Arts Déco, le Mobilier National, pardon, le Musée de l'Armée, la Fondation Napoléon. Donc en fait, si vous voulez, c'est très simple. Tout ce que le grand public a l'habitude de voir dans 7 ou 8 musées différents, eh bien là, tout est rassemblé. À la fois des objets exceptionnels comme le bivouac de Napoléon, évidemment un bicorne, une redingote, une robe de cour de Joséphine, mais aussi parmi les tableaux les plus célèbres. Napoléon traversant le col du Grand Saint-Bernard de David, évidemment Napoléon à Arcole de Gros. Enfin, c'est un très grand best-of.
Alors, quelle est pour vous, Arthur Chevalier, la pièce la plus emblématique, s'il y en avait une à retenir?
Je crois que ce serait assez compliqué d'en choisir une seule. Moi, je dirais que c'est Napoléon au pont d'Arcole de Gros, parce que Napoléon a demandé donc au baron Gros de le représenter traversant le pont d'Arcole, alors qu'il ne l'a jamais traversé. Or, dans cette même campagne, il en avait traversé beaucoup des ponts. Donc c'est assez drôle que Napoléon ait choisi une défaite pour illustrer sa gloire. C'est-à-dire que ça montre son intolérance vis-à-vis des choses imparfaites et de sa propre défaillance.
Alors, on le dit, toujours une exposition, c'est une mise en scène, une scénographie. Celle-là, elle est sinueuse, il y a des virages, entre guillemets, et on découvre à chaque endroit un moment de la vie de Napoléon. Ça commence par sa jeunesse à l'école de Brienne, et au fur et à mesure apparaît le stratège militaire, l'homme jusqu'au centre, cerclé de rouge, d'un rideau rouge, la salle du trône.
Oui, cette salle du trône, elle est censée représenter plusieurs choses. D'abord, eh bien évidemment, la salle du trône, donc c'est une forme de restauration monarchique, car il y avait ça aussi dans l'Empire. Et évidemment aussi le faste de ce qui a été le sacre, où vous voyez à l'intérieur ce qu'ont été les habits de la nouvelle cour d'Empire, donc les grands officiers d'Empire, les maréchaux.
Il y a un dress code, en fait, autour de Napoléon. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans l'exposition.
Il y a un protocole tout aussi rigoureux, si vous voulez, que sous l'Ancien Régime, sauf que maintenant, ce sont les uniformes. D'ailleurs, Napoléon était passionné d'uniformes. N'oubliez pas que c'est lui qui a demandé aux académiciens de porter les uniformes qu'ils portent aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un dress code. Tout le monde doit s'habiller en fonction de l'étiquette et en fonction des événements qui y correspondent, absolument.
Alors, il y a des tableaux qui illustrent Napoléon. Il y a quantité de sculptures. Il y a un côté, en fait, dans cette exposition, on a l'impression d'une forme de propagande. Moi, je, Napoléon.
Oui, Napoléon, dans la droite ligne de Louis XIV, a effectivement révolutionné la communication politique en organisant d'abord un culte de sa personnalité très pensé, très structuré et au fond d'ailleurs très sophistiqué. Et il a fait évoluer ce culte de la personnalité du consulat à l'Empire de façon en fait exponentielle, clairement. Donc tout tourne autour de sa personne. C'est lui qui neutralise les antagonismes, qui rassemble la France et qui incarne le renouveau de l'ordre après la Révolution.
Alors, il y a aussi, quand on fait une exposition sur Napoléon, qu'est-ce qu'on cherche à montrer exactement?
Dans cette exposition particulièrement, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la vie de Napoléon, parce qu'elle est déjà extraordinaire en soi. C'est peut-être le plus grand roman du 19e siècle, la vie de Napoléon. Mais là, en l'occurrence, on a essayé de montrer que Napoléon, ça s'inscrivait dans quelque chose qui le dépassait lui. C'est-à-dire que Napoléon n'est pas un miracle, c'est pas une comète, si vous voulez. Napoléon, c'est la conséquence d'une chose fondatrice qui est la Révolution française, et c'est le créateur d'une chose non moins fondatrice, qui est le 19e siècle. Donc en fait, c'est un maillon de la chaîne de la rationalisation de l'exercice de l'État. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que Napoléon, en fait, son apparition et sa disparition étaient tout à fait congruentes relativement à l'histoire de France. Donc on a voulu le contextualiser dans une histoire qui le dépassait lui, pour qu'on essaye de comprendre comment est-ce qu'un tel homme, en fait, n'est pas si exceptionnel, non pas au sens de ses réalisations, mais on peut tout à fait expliquer Napoléon. Voilà, c'est pas quelqu'un qui nous a embarqué dans un destin avec son hubris. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans un contexte historique qui aurait pu être sensiblement différent, mais qui est tout à fait explicable quand on regarde sa vie à lui.
On découvre aussi un Napoléon assez intime avec et vous mettez de la modernité dans cette exposition-là avec Lou Doyon qui lit des lettres de Napoléon à Joséphine de Beauharnais.
Absolument, et il faut bien rendre hommage à Chris Darcon, le président du Grand Palais, dont c'était l'idée. Effectivement, Lou Doyon qui aime beaucoup Napoléon, figurez-vous, c'est inattendu mais c'est vrai, et qui lit sous la nef du Grand Palais, on a fait donc une séquence filmée, des lettres que Napoléon envoyait à Joséphine depuis la première campagne d'Italie en 1795-96. Et effectivement, on trouve que ça renouvelait un peu le genre, quoi. Ça permettait à une artiste de s'approprier quelque chose qui pourrait apparaître comme une simple archive, quoi.
Mais c'est aussi un bel écrivain.
Oui, c'est un écrivain néoclassique, pré-romantique. Oui, c'est un bel écrivain, oui. à mon sens, un peu lourd d'adjectifs et d'adverbes, parfois un peu pompeux, mais bon, il est à l'image de son époque.
Alors, en même temps, dans cette exposition, c'est pas une exposition non plus à la gloire de Napoléon. Elle donne aussi à comprendre Napoléon sans l'excuser.
Bien sûr, Napoléon, c'est pas que la construction de l'État moderne, c'est aussi le rétablissement de l'esclavage, c'est aussi effectivement une vraie forme d'hubris relativement à des guerres qu'il n'a pas initiées, mais enfin qu'il a clairement maximisées. C'est aussi un état des mœurs et d'organisation des mœurs dans le Code civil avec l'organisation conservatrice de la famille, la misogynie si on préfère. Évidemment, tout ça, ce sont des choses qui nous paraissent très lointaines et donc on a voulu essayer de comprendre, dans des parties assez longues d'ailleurs, avec une hiérarchie d'information à mon avis assez exigeante, le rétablissement de l'esclavage par exemple, on a voulu faire des interviews d'historiens pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé à ce moment-là, histoire de regarder notre histoire en face.
Je voudrais qu'on s'attarde, on en a parlé au tout début de l'interview, sur cette dernière pièce de l'exposition. On a l'impression que c'est terminé, il y a le visage mortuaire de Napoléon, on sait qu'il est mort, et puis il y a une statue. Est-ce que vous pouvez décrire cette statue?
Oui, c'est une statue du Vela qui date du Second Empire, mi-19e, un peu plus tard, enfin en gros mi-19e. On voit Napoléon assis à la fois prostré, décidé et abattu sur un grand fauteuil. Napoléon assez vieilli. Le visage émacié, donc très mince. Alors c'est une vision évidemment complètement idéalisée, enfin non pas idéalisée, mais c'est une vision artistique de Napoléon, puisque Napoléon vieux était très gros, chauve et pas dans un bon état. Mais on a ce Napoléon, si vous voulez, empereur romain finissant entre guillemets, qu'on a mis dos à un fond marin, enfin une mer si vous préférez, un fond maritime, qui regarde à la fois son destin, son passé, qui est un mélange de grandeur et de nostalgie.
Et qui est tout proche de la sortie.
Et qui est la dernière œuvre que peuvent voir les visiteurs, absolument. Qui est une image, je crois, assez frappante.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette. Ça commence donc aujourd'hui, ouvert au public, et c'est jusqu'au 19 septembre prochain. Et c'est une expo France Inter, et je vous le dis, courez-y.